Bien, merci André, merci de cette invitation. Donc le sujet qu'on a décidé, je crois, tous les deux un peu, puisque c'est un peu sur cette base que tu m'avais proposé d'intervenir, est évidemment très important. Il s'agit de la crise grecque, qui est importante pour la Grèce elle-même, mais qui est évidemment aussi très importante pour l'Europe, pour la zone euro en particulier, puisque la façon dont on interprétera cette crise, la façon dont on lui apportera des réponses, des solutions, évidemment, aura une importance considérable sur le devenir, peut-être, de cette zone, ou en tout cas de ses propriétés, du confort, pour le dire un peu bêtement, qu'elle apportera à ses membres. Alors, je viens de le dire, pour la Grèce elle-même, cette crise, c'est le signal d'un plan d'ajustement budgétaire absolument considérable. Je reviendrai dans quelques instants sur les chiffres, mais on parle d'un plan d'ajustement de plus de 10 points de PIB de correction budgétaire en quelques années. Il y a quelques précédents, mais j'y reviendrai, vous les avez en tête, la Suède, l'Irlande, ce sont des précédents qui ne sont pas exactement de même nature, puisqu'à chaque fois, ils se sont produits non pas dans une zone monétaire, mais dans une union monétaire nationale qui a permis au pays de dévaluer considérablement sa monnaie, donc de soutenir sa croissance par les effets de la dévaluation, ce qui n'est pas le cas en Grèce aujourd'hui. Donc on est dans quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre peut-être que les efforts d'ajustement qui avaient été faits dans les années 30 par les pays soumis à la crise lorsqu'ils ont essayé, aussi longtemps qu'ils ont pu, de rester à l'intérieur du gold standard. Et toutes les recherches initiées après les travaux de Barry Eichengreen notamment, ont réinterprété la crise des années 30 comme en réalité un effet de cet étalon or qui a obligé les pays à des efforts d'ajustement tout à fait considérables pour soutenir leur parité. Et la crise pour ces pays s'achève dès lors qu'ils quittent l'étalon or. L'Angleterre en 31, les États-Unis en 33, la France en 36. Donc là, il y a un parallélisme évidemment très préoccupant si on devait le mener jusqu'à son terme, si aucune autre solution n'était apportée à la gestion de cette crise. Ce sera ce que je développerai à la fin de cette présentation. Bon, pour les autres pays de la zone euro, toujours en restant à un niveau assez conjoncturel, cette crise, elle a tout simplement signé le retour prématuré, sans doute, compte tenu de la crise économique qui n'est pas terminée, le retour à une consolidation budgétaire qu'on a observé évidemment dans tous les pays menacés par la crise directement, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, mais qu'on voit en réalité à l'œuvre en dehors même de la zone euro, au Royaume-Uni et en fait, sans le dire naturellement, en France aussi, l'Allemagne étant d'ailleurs dans une situation plus ambiguë qu'elle ne l'annonce elle-même. Mais ce qui est certain, c'est que l'exemple grec a été interprété par les pays de la zone euro et notamment par les pays du Sud, elle a été interprétée comme le moment de consolider la rigueur. Et ce qui est extraordinaire, et j'y consacrerai quelques développements tout à l'heure aussi, c'est que tout ça semble principalement lié à la peur que l'exemple grec a mis en scène d'une dégradation de leur note par les agences de notation. Les agences de notation qui ont été d'une certaine façon responsables, co-responsables de la crise des subprimes, en ne la comprenant pas, en notant de manière tout à fait aberrante les différents produits toxiques dont on a découvert qu'ils ne valaient rien après, eh bien, se sont curieusement refait une espèce de santé en montrant leur puissance, leur pouvoir, mais dans l'autre sens. Ils avaient péché par excès d'optimisme avant la crise des subprimes, et là, tout d'un coup, leur notation, leur note, redevient une épée de Damoclès sur les têtes des pays de la zone euro notamment, et il faut s'interroger sur la signification de cette notation des pays par les agences de notation, quelle est sa portée prédictive, quel est le rôle qu'il faut leur laisser, et j'en dirai là encore quelques mots tout à l'heure. Donc, au-delà des effets conjoncturels, qui sont peut-être les plus importants pour la Grèce, pour la zone euro, qu'est-ce que va signifier pour la croissance des prochains trimestres cette rigueur budgétaire nouvelle? Les problèmes en profondeur auxquels il faut évidemment s'attacher, c'est ce que je signale ici. D'abord, une interprétation de la crise grecque elle-même, Je ferai un détour peut-être un peu long tout à l'heure. On verra le temps dont on dispose par un modèle théorique pour comprendre les enjeux de cette question. Est-ce que la crise grecque, c'est bêtement un problème de soutenabilité, comme on en a vu plusieurs dans l'histoire. Dans les années 80, les pays d'Amérique latine étaient trop endettés. Ils ont dû réduire la voilure. Ou est-ce que c'est autre chose, c'est une perte de confiance dans quelque chose qui pourrait être la Grèce, mais qui pourrait être aussi plus généralement les mécanismes en place dans la zone euro et qui crée un processus autoréalisateur? Et auquel cas, évidemment, la soutenabilité ne serait qu'un prétexte, un effet, un facteur second par rapport à cette capacité des marchés de produire des prophéties autoréalisatrices. Donc j'en dirai quelques mots dans un instant aussi, dans ce modèle théorique que je présenterai dans un deuxième temps. Question centrale, aujourd'hui dans la zone euro, quel poids faut-il continuer de donner aux agences de notation, puisqu'il est considérable. C'est encore une fois d'une certaine façon l'un des déclencheurs de la crise et certainement dans la rigueur budgétaire, c'est l'un des facteurs qui explique pourquoi les pays ont décidé si vite de revenir à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'il y a une alternative à ces agences de notation? Est-ce que la politique économique doit les ignorer ou au contraire leur donner tout son poids? Deuxième question très importante. Et puis pour la zone euro, je dirais quelques mots en généralité en faisant le lien avec la politique monétaire, qui est évidemment le grand absent, peut-être, de toute cette séquence. Alors, on y va. Bon, très vite, quelques rappels, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, de cette crise. Des élections sont provoquées à l'automne 2009 par le gouvernement de Costa-Karamanlis, gouvernement de droite, pour aller vite. Évidemment, pour des raisons qui tiennent à la crise elle-même, ils se rendaient bien compte que la crise exigerait des mesures difficiles et qui n'avaient pas la légitimité pour le faire sans des élections nouvelles. Il perd ces élections. Le 4 octobre, l'opposition du PASOK et conduite par Georges Papandréou gagne les élections sur un programme, pour aller vite, de relance économique, considérant qu'il y avait déjà trop de rigueur dans ce pays. Mais très vite, à peine 15 jours plus tard, le 21 octobre 2009, le ministre des Finances grec, Georges Papakonstantinou, annonce une révision du déficit budgétaire. Le budget, au début de l'année, avait été construit sur une hypothèse de déficit de 3,7. Il avait été légèrement augmenté au fil de l'année, mais relativement peu. Et le ministre des Finances grec annonce qu'en réalité, le chiffre est de 12,5, c'est-à-dire un gros morceau de plus. Et en fait, ce chiffre sera révisé une deuxième fois, au plus mauvais moment, le 22 avril, pour atteindre finalement le niveau qui est aujourd'hui celui qui fait foi de 13,6%, c'est-à-dire un écart de plus de 10 points entre les prévisions faites au début de l'année 2009 et sa réalisation définitive après vérification, correction des comptes. Donc ça, c'est le coup d'envoi de la crise. Alors, voilà comment cette spirale s'est déclenchée. Alors, c'est à la fois relativement simple et très, très, très complexe dans le détail. Donc ce qui est en ordonnée, ce sont les spreads en point de base, les spreads au-dessus du Bund allemand. Donc vous voyez que le 4 octobre, lorsque le gouvernement de Papandréou gagne les élections, les spreads grecs par rapport au Bund allemand sont à peu près de 100 points de base. Et on a l'impression d'un Éden perdu quand on regarde ce chiffre. Il y a à peine un an, la Grèce s'endettait à 100 points de base au-dessus du Bund allemand. Là, aujourd'hui, on est à 1000 points de base. Enfin, les chiffres n'ont plus de signification, parce qu'il y a pratiquement plus de marché, mais, et certainement plus d'emprunt grec stricto sensu, mais il s'est donc passé un véritable tremblement de terre. Alors, essayons de voir la façon dont ce tremblement de terre s'est déployé. Je disais tout à l'heure, le 21 octobre, le gouvernement, la flèche n'apparaît pas là, mais vous le voyez à peu près au milieu, le 21 octobre, le gouvernement annonce que le déficit est plus important que prévu, 12,5 au lieu des 3,7 annoncés au début de l'année. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Le 5 novembre, vous voyez, la flèche, c'est malheureusement pas très bien, c'est un peu décalé, mais peu importe, vous pouvez suivre. Le 5 novembre, le gouvernement révise son programme électoral et explique que, compte tenu de la gravité de la crise et du déficit, ben, il ne va pas mettre en œuvre son programme électoral, il va, au contraire, essayer de consolider le déficit, donc qui fera face, en quelque sorte, à ses responsabilités. On n'est pas dans une situation où le gouvernement grec dit « je m'en fiche, j'ai été élu sur un programme, je l'applique et on verra après ». Non, c'est en fait exactement le contraire, très très vite. Et là commence une séquence à peu près infernale. Le 8 décembre, Fitch dégrade la dette grecque, elle était à moins avant, et elle passe à BBB+. le 8 décembre. Alors, cette dégradation, elle est très lourde d'implications. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon commentaire du rôle des agences de notation. Parce que la BCE, normalement, ne refinance les effets que s'ils sont, les effets souverains, que s'ils sont, enfin les effets en général d'ailleurs, que s'ils sont de notation à moins. Mais pendant la crise, au début de la crise, elle a descendu à triple B moins le seuil de refinancement. Mais il était prévu, lorsque le seuil a été abaissé, qu'en décembre 2010, la BCE revienne à sa politique à moins. Donc cet abaissement du seuil à partir duquel la BCE s'autorise à acheter des effets pour les refinancer, était prévu qu'elle soit transitoire. Donc quand la Grèce passe de A- à triple B+, ça pose une question très importante sur ce point de savoir si, lorsque la révision annoncée se produira, les effets grecs continuent ou cessent d'être refinançables auprès de la BCE. Un peu plus tard, il y aura une interview donnée par Axel Weber, le président de la Bundesbank, exactement sur ce point. Weber dit « Nous reviendrons en décembre 2010 au seuil à moins, comme prévu. » On lui demande « Mais alors, et si la Grèce n'y est pas ? Qu'est-ce qui se passera ?» Il répond « Ça sera le problème de la Grèce. » Donc là, il y a une onde de choc qui commence à se produire, où cette dégradation, au-delà de l'effet d'annonce symbolique que ça pourrait avoir sur les marchés, commence à poser la question, tout simplement, du cadre institutionnel à l'intérieur de laquelle la dette grecque va se refinancer. Je dirais tout à l'heure sur les agences de notation que je crois que c'est le point vraiment le plus important. Tout de suite après, Standard & Poor's fait le même geste, le 16 décembre. Moody, même si ça reste un cran au-dessus, dégrade aussi, mais pour Moody, ça reste l'équivalent de A-, ce qui stricto sensu fait que si une des trois agences de notation reste à A-, ça resterait refinançable, mais évidemment, le fil auquel la Grèce est suspendue devient très très fragile. Bon. Donc on passe d'un plateau de 100, vous voyez, après toute cette séquence au début de l'année, on est à un nouveau plateau qui va se situer entre 200 et 400. Et on a, à partir de là, une série d'annonces qui sont faites pour endiguer la crise et ce spread se balade entre 200 et 400. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce point, mais le deuxième moment décisif, je crois, se produit le 11 avril, et à la fin de cette séquence très tourmentée, lorsque l'Europe se décide enfin a annoncé un plan de soutien à la Grèce. Et ce plan de soutien, il a été longtemps différé, car les Allemands, ayant des élections très importantes le 9 mai, ne voulaient pas envoyer le signal que l'Allemagne allait bail-out la Grèce. Donc on a essayé de tenir le plus longtemps possible. Ça paraît trop compliqué, et notamment lorsque le 27 avril, Standard & Poor's redégrade le crédit de la Grèce en deçà du seuil investment grade, c'est-à-dire que là, on est dans un junk status, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun scénario où on puisse imaginer que la BCE accepte de refinancer à terme ses effets. Et donc, c'est suivi d'un plan le 11 avril. Et vous voyez les effets de ce plan, les spreads qui ont explosé à 800 continuent de croître encore plus, puisque les gens se disent qu'un plan de 30 milliards n'est absolument pas à la hauteur des problèmes posés par cette crise grecque. Donc on va de ce moment du 11 avril vers un nouveau moment climatique, comme on dit en anglais, un moment de crise, qui se dénoue, et là c'est une ironie, ça paraît pas ici, mais qui se dénoue de manière tout à fait étonnante, le 9 mai, le jour de ces élections que les Allemands voulaient absolument gagner d'abord, que les autorités en place voulaient absolument gagner, et on annonce à ce moment-là un plan de 110 milliards. Et ce plan de 110 milliards qui est annoncé le 2 mai, vous voyez la flèche, loin de calmer les esprits, a exactement le même effet que l'annonce du 11 avril. Les marchés, alors que ce plan de 110 milliards était considéré comme considérable, c'est-à-dire pratiquement 50%, un peu moins, c'est un gros tiers de la dette grecque qui est en fait refinançable par ce plan de soutien, les marchés repartent de plus belle à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent cette fois-ci que le plan 110 milliards est évidemment à la hauteur du problème, mais que l'effort d'ajustement qui est demandé à la Grèce, on va y revenir dans un instant, va casser la croissance et que donc elle va en pratique rendre impossible la mise en place de ce plan du fait de la récession. Et du coup, le 9 mai, un autre plan est annoncé. Là j'ai le détail des chiffres. Un autre plan est annoncé, cette fois-ci pour l'Europe dans son ensemble, un plan de 750 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 1 000 milliards de dollars, et dont on pense qu'il va faire taire toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir sur cette crise. De fait, le 10 mai, la bourse explose, c'est un moment d'euphorie, mais le lendemain ou le surlendemain, elle repère immédiatement ses gains, parce qu'on se rend compte que ce plan reste très incertain dans ses contours, qu'en réalité, il n'est certainement pas de nature à empêcher l'effort de rigueur budgétaire que les agences de notation semblent réclamer. Bref, au bout du compte, à la fin de cette séquence, on revient à la situation que je montre ici. Pour la Grèce, l'accès aux marchés financiers, en dépit de tous ces épisodes, est bel et bien condamné. L'effort d'ajustement est engagé et le 12 mai, j'ai gardé cette date, mais vous avez toutes les autres en tête, le gouvernement espagnol, c'est-à-dire vraiment 3 jours après ce plan de 9 mai, le gouvernement espagnol annonce à son tour un plan de restriction budgétaire et c'est le signal de la rigueur en Europe. Alors, cet ajustement grec, pour commencer par ça, il y a plusieurs questions qui sont posées, d'abord par les analystes de marché eux-mêmes, sur le point de savoir si la Grèce va s'en sortir. Aujourd'hui, la Grèce a choisi de ne pas faire défaut, c'est-à-dire qu'elle a choisi de mettre en œuvre un plan d'ajustement, je vais vous le montrer dans un instant. Certains se posent la question de savoir si c'est une solution tactique. La Grèce est en déficit, elle a un déficit tout court, mais elle a aussi un déficit primaire, c'est-à-dire un déficit même en ne prenant pas en compte le poids des intérêts. Et donc certains analystes ont fait courir la rumeur que la Grèce utilise les ressources européennes pour consolider son déficit primaire, et le jour où elle aura atteint un excédent primaire, c'est-à-dire lorsque, en fait, elle pourra financer par ses recettes, ses dépenses, hors les charges d'intérêt, alors à ce moment-là, peut-être, elle fera défaut. Peut-être, à ce moment-là, elle choisira de faire défaut. Donc, il y a toute une controverse. Il y a un article co-signé par Paolo Moro du Fonds monétaire international qui a été publié il y a une semaine ou 10 jours, qui montre que ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Quand un pays engage un programme d'ajustement, s'il va à son terme, ce n'est pas pour faire défaut à la fin de ce programme d'ajustement. Mais la question est posée parfois dans les marchés. Bon, les marchés sont très divisés sur les chances de succès. La note la plus optimiste qui a été publiée après l'annonce du plan, c'est celle de JP Morgan, qui donne 60% de chances à la Grèce de s'en sortir, et 30% qu'elle n'y arrive pas malgré sa bonne volonté, ce qui, donc, dans son esprit, signifie qu'elle pourra obtenir le soutien des autorités européennes, et puis 10% que ça se termine dans le chaos et que la dette soit restructurée de manière hostile, comme disent les marchés. Alors, les épisodes... Alors, voilà les données de l'ajustement grec telles qu'ils ont été publiées par le Fonds monétaire international, telles qu'ils ont été acceptées par les autorités grecques sur la base de ces prévisions. Vous voyez que l'objectif pour 2010, c'est de ramener le déficit, vous vous souvenez qu'il était à 13,6 en fin 2009, de le ramener à 8,1, c'est-à-dire un effort d'ajustement de plus de 5 points, 5,5 points. C'est dire que le gros de l'effort, et c'est sans doute très malin politiquement, se situe la première année. C'est la première année qu'on passe de 13,6 à 8,1. Et après, le plan est plus lent et prévoit sur les 4 années qui suivent de repasser de 8,1 à un seuil fixé symboliquement en deçà de 3% pour 2014. Donc c'est un plan très lourd au début qui fait des hypothèses de croissance, je crois, réalistes, négatives moins 4 en 2010 et encore négatives en 2011, mais qui prévoit un retour en 2012. Donc l'idée, c'est que si à la fin de l'année, la Grèce arrive à atteindre 8,1, si elle stabilise à plus ou moins 8,1, 7,6 en 2011 l'objectif, eh bien, on peut dire qu'elle sera sortie de l'impasse. Regardez le primary balance, le solde primaire hors intérêt, il passe à l'équilibre vers la fin 2011. En 2011, il est à moins 1 et 2012, il a plus 1. Donc c'est le point où certains analystes se disent que s'il y a un défaut stratégique, c'est là que peut-être il se produira. Et donc on est évidemment, du point de vue de ces analystes, pas du tout sorti d'affaire. C'est pour ça que les spreads ne baissent pas du tout malgré tout ce qui a été annoncé. Puisque pour les analystes, la question est simplement pour l'instant reportée dans le temps. Vous voyez le ratio de dette sur PIB va atteindre 150% en 2012-2013 avant de commencer à décliner si tous ces plans sont sont mis en œuvre. Le déficit de départ, la dette de départ était à 110% avant le début de ces hostilités. Donc on a 40 points de PIB de plus si ce processus est mené à son terme. Alors quelques rappels brefs sur les autres épisodes de consolidation budgétaire qui ont été réalisés. J'en ai pris deux, Irlande et Suède. Bon, là, vous voyez, dans le cas de l'Irlande, la dette est passée de 107 à 92. Le déficit structurel, corrigé par le cycle, est passé de 7 à 2,2 en deux ans. Donc, d'une certaine façon, c'est deux fois plus important en Grèce aujourd'hui que ça n'était en Irlande, puisqu'on a vu qu'il y a 5 points la première année, là, c'est 2 points sur deux ans. Mais ce qui est souvent commenté et qui me paraît en effet tout à fait important, regardez, si vous arrivez à lire la dernière ligne sur le taux de change, vous voyez qu'avant la mise en œuvre du programme d'ajustement 87, la monnaie s'est considérablement dévaluée de plus de 45% entre 83 et 87. En fait, l'annonce du programme d'ajustement va stabiliser la monnaie. Elle va revenir un peu plus bas qu'elle n'avait atteint, que le niveau qu'elle avait été atteint en 87. Et évidemment, ça va jouer un rôle très important dans l'explication des raisons pour lesquelles le PIB ne va pas décroître au cours de cette période d'ajustement. Vous regardez le chiffre 87-89, le PIB reste fort. Ça a été souvent qualifié de consolidation budgétaire non keynésienne, c'est une grosse restriction budgétaire qui s'accompagne en fait d'une reprise de la croissance parce que ça restaure la crédibilité de l'État. Bon, ça joue aussi beaucoup, la dévaluation qui a précédé joue aussi bien sûr un rôle très très important dans l'explication de ce paradoxe anti-keynésien. La même chose, en fait, se produit en Irlande. L'autre grand exemple qui est donné, c'est la Suède, qui a fait un gros effort de consolidation budgétaire, de 94 à 98, presque 10 points de PIB. Donc là, ça se compare à ce que la Grèce va faire, en 4 ans, 5 ans, 10 points de PIB de consolidation budgétaire. Mais là encore, une dévaluation de presque d'un tiers a précédé la consolidation elle-même. Regardez les derniers chiffres. La dévaluation, elle va de 91 à 94. Après, ça se stabilise un peu, en fait. Et ça, c'est une dévaluation, vous voyez, de 5,5 à 6,6. C'est une dévaluation de plus d'un tiers qui précède stricto sensu, de 5,5 à 7,4 en 94. C'est une dévaluation de plus d'un tiers qui précède la stabilisation. Mais l'effort budgétaire, ici, se compare en effet à celui qui est demandé à la Grèce. Donc c'est un exemple, en tout cas du point de vue budgétaire, qui peut être retenu. Bon, quoi qu'il en soit, le retour à la confiance a été assez rapide dans ces deux cas. Vous voyez les spreads, regardez celui du haut, c'est le spread par rapport à l'Allemagne. On a eu un pic à 700 points de base, mais ça revient à 300 points de base assez vite en deux ans et à 100 points de base dans le cas suédois en 2-3 ans. Donc on est là pour le coup dans un retour à la normale assez rapide, les marchés ont assez vite saisi en 2-3 ans bon, que la situation était consolidée. Juste un dernier mot sur la Grèce elle-même. La Grèce a elle-même connu une purge avant d'entrer dans la zone euro. Vous voyez, ça c'est les excédents budgétaires primaires ajustés pour le cycle avant l'entrée de la Grèce dans la zone euro. On voit que la Grèce a été capable de faire un excédent primaire de 2 à 5 points de PIB, 2 à 4, à moyenne de 3 pendant plusieurs années. Alors c'est ces chiffres qui ont été un peu manipulés, qui font dire aujourd'hui que la Grèce a triché pour entrer dans la zone euro, mais quelle que soit l'épaisseur du trait, là on a indiscutablement un effort budgétaire qui va très au-delà des erreurs de mesure. Bon, donc c'est tout de même de bon augure aussi. Alors, je vais passer à une autre présentation au milieu. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à les intégrer dans la même slide, mais les questions théoriques que pose cet effort d'ajustement grec aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est fictif, est-ce qu'il est fin, est-ce que c'est un truc qui est fait par la Grèce pour gagner du temps avant de se mettre en cessation de paiement, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ressembler à une crise autoréalisatrice, au sens où tout d'un coup les marchés retirent leur confiance à un pays et ce faisant créent une spirale où le pays doit faire des efforts d'ajustement qui sont si coûteux qu'au bout du compte il doit peut-être faire défaut au bout du compte. Donc je vais vous présenter assez brièvement un modèle théorique, donc il y aura quelques équations. Donc pardon pour ceux qui ne vont pas suivre dans le détail, mais je pense que c'est très important pour être bien assis sur le raisonnement qui est nécessaire pour suivre cette question. Alors